je suis encore un peu, mais j'espère pas trop. J'espère que vous me comprenez, je parle assez fort. Je vous amène naturellement les meilleures salutations de l'église de Zurich, et particulièrement de Wolfram et Bertie. J'ai quelques études maintenant pour vous parler du zèle. C'est un sujet qui est assez difficile, je dirais, mais je pense que c'est un sujet important, et puis c'est important surtout qu'on se pose des questions sur les sujets difficiles. Alors qu'est-ce que c'est que le zèle? Est-ce que c'est du dynamisme? Est-ce que c'est un esprit d'entreprise? Est-ce que c'est de l'agitation simplement? Est-ce qu'il s'agit de servir, de motiver, de prêcher l'évangile? De quoi est-ce qu'il s'agit? Je pense qu'il y a peut-être tout ça ensemble, mais ce que nous voulons apprendre à connaître, c'est un zèle qui fait plaisir à Dieu. Et j'ai choisi de traiter quatre aspects du zèle. Il y en a probablement d'autres, mais ces quatre aspects me semblent importants. Il s'agit de la connaissance, de la disponibilité, du courage et de l'endurance. Donc, nous aurons l'occasion de voir ces quatre thèmes entre aujourd'hui et demain. Et comment les mettre en rapport avec le zèle? Alors, je voudrais commencer avec une image. Je voudrais comparer chaque chrétien à une voiture. Une voiture qui roule dans la même direction sur une route, ça peut être une autoroute par exemple. Alors il y a différentes sortes de voitures. Il y a des voitures rapides, il y a des Ferrari, il y a des Porsche, il y a des Mercedes, et des voitures plus lentes. Des voitures même très lentes, des deux chevaux. Je pense que chacun a des dons différents, chacun a un potentiel différent, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est une Ferrari va rouler très vite. Il y a des Ferrari qui roulent à 20 à l'heure. Et le zèle, c'est la vitesse que cette voiture a, ou que cette voiture prend. Maintenant, bon, une voiture peut être rapide, mais qu'est-ce qui peut la ralentir? Une voiture est sur quatre roues, quatre pneus, et pour moi, ces quatre pneus, ce sont les quatre thèmes que je vais étudier avec vous pendant ces deux jours. Donc, la connaissance, la disponibilité, le courage et l'endurance. Alors que se passe-t-il quand un pneu se dégonfle? Eh bien, on perd de la vitesse. Ou bien on a même de la peine à garder sa trajectoire. Ou dans le pire des cas, si le pneu éclate, on part contre le mur qui est à côté. Et c'est ça que je voudrais dire. Ces quatre aspects que je viens de mentionner sont nécessaires au zèle du chrétien. Alors j'ai commencé aujourd'hui avec la connaissance. De nouveau un exemple pour montrer de quoi je veux parler avec la connaissance. Vous êtes au bord de la route, à un croisement, et il y a un accident. Un motard est renversé par une voiture. Le motard est sur le sol, sans connaissance, du moins c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous faites? Comment l'aider? Quels sont les premiers secours à lui donner? Alors, ce que j'ai appris à mes cours de premier secours, c'est qu'il ne faut jamais enlever le casque d'un motard qui est sur le sol. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On ne peut pas l'inventer sur le moment. Il faut l'avoir appris pour avoir la réaction juste au moment où c'est nécessaire. Et ça, c'est une question de connaissance. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de rapidité d'esprit, c'est une question de connaissance pure. Et la connaissance est aussi importante pour nous, pour tous les chrétiens. Et je voudrais lire un passage dans l'épître aux Galates, chapitre 1, versets 13 à 14, où l'apôtre Paul parle de sa connaissance et de son zèle. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Alors Paul avait un zèle excessif. Il roulait à grande vitesse, mais dans la fausse direction. Qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait l'Église. Un manque de connaissance. Quelle était la valeur de ce zèle pour Dieu? Même pire que ça, c'est un zèle qui accusait Paul. Et Paul parle de ce zèle qu'ont les Juifs ou qu'avaient les Juifs à son époque, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Le mot intelligence ici, c'est le mot connaissance aussi. Ce sont des Juifs qui étaient zélés, mais pas dans le bon sens. Un zèle inutile. Un zèle qui ne peut pas sauver. Un zèle qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est ce qui arrive quand on refuse d'accepter la justice de Dieu. Et c'est ce dont parle Paul dans l'Épître aux Romains, dans ce même chapitre 10, les versets 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Le zèle pour Dieu passe par Christ. Et celui qui refuse de se soumettre à Christ, celui qui refuse d'accepter Christ comme son sauveur, ne peut pas être zélé envers Dieu. C'est simplement impossible. Et maintenant, si je parle de connaissance, est-ce que chacun peut dire « je connais précisément l'Évangile » ? Est-ce que nous cherchons à le connaître précisément ? Et là, je pense que chacun de nous doit fournir un effort pour apprendre à connaître l'Évangile à fond, pour en savoir toujours plus. Il ne suffit pas de fréquenter passivement des assemblées ou des études bibliques. Il faut plus que ça. Il faut développer un amour pour la vérité, un amour pour la parole. Et là, je parle de l'amour pour l'Évangile que Dieu nous a livré à travers son Fils Jésus. Et ça, c'est la première étape du zèle. Ça ne sert à rien de vouloir rouler à grande vitesse si on part dans la fausse direction. Il faut avoir cet amour de la vérité. Et c'est cet amour de vérité, c'est cet amour de la vérité qui peut nous sauver. Paul en parle dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 10. Je lis à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors nous devons aimer cette vérité, être zélés pour elle, vouloir la connaître toujours mieux, toujours plus. Et ça, c'est très important. Quand nous parlons avec certaines personnes de premier secours, nous voyons chez elles une passion, un enthousiasme qui nous étonne. Ce sont des gens qui veulent être prêts. C'est uniquement la théorie, peut-être, pour l'instant, mais pour le cas où, ce sont des gens qui veulent avoir appris ce qu'il faut faire. Les premiers secours, c'est très important, ça peut sauver des vies. C'est une préparation au cas où quelque chose de sérieux se passe. Mais c'est tout aussi important d'apprendre en fonction, d'apprendre pour l'Évangile, pour prêcher l'Évangile, pour parfaire sa connaissance. Et alors, que faire pour parfaire sa connaissance? Il y a naturellement beaucoup de choses. prière, étude biblique personnelle, discussion. Oui, il faut faire un effort pour travailler sa foi. Et ce zèle, ce premier aspect du zèle, c'est d'abord une affaire entre chaque chrétien et Dieu. C'est un investissement. Il faut investir dans la connaissance et alors nous serons prêts quand il le faudra. Le zèle, c'est un mot français qui vient directement du grec. Zélos, on dit en grec. Et ce mot grec peut avoir différents sens. Il peut être soit positif, soit négatif. Alors je vous mentionne un exemple positif dans 2 Corinthiens 9, 2. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Zèle. Un zèle positif. Et en grec, c'est ce mot zélos. Mais il peut aussi y avoir des zèles négatifs. Je cite un exemple, les Actes des Apôtres 5, 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Eh bien, ce mot jalousie, comme il est traduit en français, c'est ce même terme grec, zélos, mais dans le sens négatif. Alors le zèle doit être naturellement positif. Et c'est une affaire de connaissance aussi. J'aimerais parler maintenant d'un exemple biblique, d'une personne qui, à mon avis, était très zélée. Un homme qui avait aussi la connaissance pour être zélé. C'est un homme dont Luc parle dans les Actes des Apôtres. C'est un homme dont on n'entend pas beaucoup parler, mais à différentes reprises. Et je pense que c'est un bon exemple pour nous, un exemple de zèle avec connaissance. Il s'agit de Philippe. Et j'aimerais lire son propos dans Actes 8, versets 26 à 30. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Nous voyons ce Philippe qui se rend sur un chemin désert, prêt à tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit un char qui vient vers lui avec un ministre éthiopien. Alors s'il avait pu s'imaginer ça, j'en sais rien, mais je pense pas. Et il entend ce ministre qui lit un passage de l'Ancien Testament. Et que fait Philippe à ce moment? Est-ce qu'il demande par exemple à ce ministre: bonjour, comment ça va? Non, il a quelque chose d'autre en tête. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Alors il faut déjà une dose de courage pour poser cette question. Parce que si la réponse est non, il faut pouvoir expliquer de quoi il s'agit. Alors Philippe lui pose cette question, comprends-tu ce que tu lis? Et le ministre éthiopien lui répond, je ne pourrais pas savoir si personne ne me guide. Et c'est là que Philippe peut agir. Pourquoi? Parce qu'il a investi à l'avance dans sa connaissance. Il est en mesure de répondre à la question, il n'est pas pris au dépourvu. Et ça, c'est important. C'est important d'être prêt. C'est important d'avoir investi dans sa connaissance à l'avance pour être prêt au bon moment. Et là, que fait Philippe? Les premiers secours. Il peut donner libre cours à son zèle, il peut prêcher l'évangile, et qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la parole, et nous voyons dans la suite de l'histoire ce qui se passe. Je lis à partir du verset 32 jusqu'à la fin du paragraphe, verset 40. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que tout joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Oui, c'est un magnifique exemple de quelqu'un qui était prêt. L'Esprit a pu utiliser Philippe dans ces circonstances. Dieu s'est servi de Philippe comme instrument, et l'instrument était prêt. Et Philippe a pu administrer les premiers secours spirituels, et ça a mené au but. Le ministre éthiopien s'est converti. C'est la plus belle chose qui puisse lui arriver. Et maintenant, la question qui se pose pour nous, qu'aurions-nous fait à la place d'un Philippe? Si nous voyons une circonstance, si nous voyons des événements du même style, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous pouvons dire quelque chose? Ou bien est-ce que nous devons dire, je voudrais bien, mais je ne sais pas ce que je dois dire? Et ça, c'est le premier stade du zèle, investir dans sa connaissance pour qu'on puisse agir comme c'est nécessaire. Bien sûr, tout le monde n'est pas un Philippe, tout le monde n'a pas les dons d'un Philippe, tout le monde n'a peut-être pas son caractère, mais tout de même, chacun peut faire un effort pour savoir plus, chacun peut faire un effort pour connaître l'Évangile et pour le, oui, pour être en mesure de le retransmettre s'il le faut. Et ça, c'est très important. Sans connaissance, pas de zèle. Et pour revenir à cette image de la voiture, si nous voulons rouler vite, une des premières conditions, c'est d'avoir une bonne connaissance de l'Évangile, une connaissance que nous devons toujours améliorer, maintenir vivante, et être prêt aussi à partager avec d'autres. Alors je voudrais ici terminer cette première étude. Dans les groupes de discussion, nous aurons l'occasion d'en parler, de voir différentes questions de connaissance. Qu'est-ce que je fais pour améliorer ma connaissance? Est-ce que ça m'est important d'améliorer ma connaissance? Je suis sûr qu'il y aura des quantités propositions ou d'idées sur ce qui est possible de faire dans ce domaine. Alors, je vous remercie et puis nous passons dans les groupes de discussion. Amen.